Interview, actualité, chronique, montez le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Metal La Fosse, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions, disponible sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast et bien d'autres plateformes de podcast. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent chaque vendredi. Le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock. Alors je ne sais pas si vous étiez à l'un des deux concerts français de Judas Priest et Saxon vendredi et lundi dernier. Moi j'étais au Zénith de Paris lundi et franchement j'ai trouvé que les deux groupes avaient assuré. J'avais trouvé Rob Halford un peu diminué au Hellfest en 2022, mais alors là c'était beaucoup, beaucoup mieux tout simplement. Et Saxon était vraiment au top. Voilà, c'était deux super concerts et donc les vieux en ont encore sous le pied. Changement de style total pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler Doom Metal avec Witcharius, un trio originaire de Chelles en Seine-et-Marne, créé fin 2019. Leur premier album Witcharius est sorti le 16 février dernier. Ils ont pas mal de concerts prévus cette année, dont le Grand Paris Lodge qui aura lieu les 26 et 27 avril à l'empreinte de Savigny-le-Temple en Seine-et-Marne également. Ça, c'est dans quelques minutes. Après l'interview, je vais vous parler du documentaire sur le légendaire Wino disponible sur The Pit. Wino, c'est le chanteur-guitariste du groupe de Stoner Doom The Obsessed. Il a également joué dans Saint Vitus et dans plein d'autres groupes, si bien qu'il est surnommé le parrain du Doom. Puis, on terminera l'émission avec le traditionnel agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite Blood, extrait du premier album éponyme de Witcharius, sorti le 16 février dernier. Et on retrouve le groupe juste après pour l'interview Blood de Witcharius tout de suite. We'll be right back. Vous écoutez le podcast Rock et Metal La Fosse, c'était Witcharius avec le morceau Blood. J'ai le plaisir de recevoir Antoine, guitariste et chanteur, et Paul, batteur de Witcharius. Bonjour à vous.
Salut Raphaël.
Salut.
Merci beaucoup d'être là dans cette émission aujourd'hui. Il manque juste votre bassiste et deuxième chanteuse, Lucie, qui est également ta sœur, Paul. Est-ce que j'ai regardé le bon Paul? C'est Paul?
Oui,
c'est bon.
C'est
okay. Je vais peut-être me mélanger un petit peu au début de l'interview, on verra. Witcharius, du coup, c'est un groupe créé en 2019, donc familial pour Paul et Lucie. Et toi, Antoine, tu avais déjà joué avec Lucie dans d'autres groupes pendant presque 10 ans. Donc Witcharius, voilà, groupe de famille et d'amis, si on résume.
C'est ça.
Vous vous êtes bien trouvés, d'ailleurs, puisque vous êtes trois fans de heavy metal et de doom metal. Dans votre musique, on retrouve évidemment du Black Sabbath, du Pentagram, du Saint Vitus. On trouve aussi du Electric Wizard, du Monolord, du Mars Red Sky, voilà, avec un côté stoner, mais aussi des influences plus modernes de post-metal, de sludge, un petit air de Neurosis aussi, parfois, je trouve.
On nous l'a dit.
Et donc tout ça mélangé dans un shaker, ça donne Witcharius. Alors très rapidement, est-ce qu'on peut revenir sur la création du groupe? Comment c'est né?
Ouais.
Comment c'est, d'où c'est parti?
Ça s'est créé fin 2019 donc. Très exactement, je crois que vraiment le début c'était une répète où on commençait à s'ennuyer un peu, en avoir un peu marre. On s'est dit ça va pas là, c'est... Il y a un truc qui nous ressemble pas.
Vous faisiez du heavy metal, je crois, à cette époque-là.
Ouais, on faisait un truc un peu plus...
C'était plus, même, je dirais, hard rock.
Ouais, un peu plus hard rock,
Un peu old school et tout.
Ouais, ça.
Et ouais, c'était vraiment en pleine répète, je me souviens. On commençait un peu à s'ennuyer, en fait.
Déjà
vu,
quoi.
C'est pas une répète, c'était le symptôme.
C'était ça,
était là avant.
Et on s'est juste... En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment venu d'un coup comme ça. On s'est dit, mais... Et si on faisait un peu, juste jammer et faire ce coup... Un peu autre chose, quoi, ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est-à-dire, toi, par exemple, tu t'es accordé plus bas.
Ouais, c'est ça.
Moi, je me suis laissé un peu plus, un petit peu plus de liberté au niveau de la batterie et tout. Donc, ça a donné notre son.
Ouais, des choses qu'on expérimentait déjà avant et on s'est dit, mais qu'est-ce qui ferait que c'est mieux? Toi, je me rappelle, Paul, tu m'as regardé, tu m'as dit, déjà, si tu t'accordais plus bas, ça ferait un peu plus...
J'aime bien quand le batteur donne des conseils aux guitaristes.
Ça faisait un moment qu'on faisait plus parler la basse avec des effets, avec de la fuzz, on voulait vraiment donner plus de place à la basse. D'ailleurs, si tu écoutes nos premiers singles, il y a des passages où il n'y a vraiment que de la basse et de la batterie, il n'y a pas trop de guitare. Donc c'est ça qu'on voulait faire parler. Et puis après, on est parti sur les thématiques aussi et on avait vraiment envie d'aborder des choses plus sombres, des thèmes plus sérieux.
Quoi votre vision justement de ce groupe qui n'avait peut-être pas encore de nom à cette époque-là? Voilà, qu'est-ce que vous vouliez faire? C'était quoi un petit peu l'univers vers lequel vous vouliez vous diriger? La direction un petit peu artistique?
On voulait vraiment, côté musique, faire quelque chose de sombre, qui était vraiment plus doom pour le coup, vraiment cette couleur-là, en faisant à la fois en reprenant des éléments classiques vintage avec les riffs, le son un peu old school, mais en modernisant un peu la chose. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on voulait pas tomber dans un doom qui soit 15 minutes du même riff qui est très lent.
Ouais, on voulait pas faire un rip-off de Monolord ou Black Sabbath, quoi.
Voilà, il y en a qui le font très bien, nous on sentait que ça allait pas être notre truc. Donc
tous les groupes de doom sont un rip-off de Black Sabbath. Mais oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Et donc Antoine, tu as été le dernier contacté, je crois, pour ce trio. Qu'est-ce qui t'a branché dans le projet?
Alors c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, c'est Paul le dernier contacté en fait.
Ah d'accord.
Parce que
ils jouaient déjà ensemble en fait,
dans
un groupe, et il y avait un autre batteur. Et moi je suis arrivé ensuite, j'étais à peine adulte quoi.
Paul était plus jeune, il avait grandi.
Ouais.
Il avait enfin 18-19 ans.
Ouais. Voilà. Et puis j'ai rejoint le groupe et puis c'était un peu logique parce que j'étais le frère de Lucie et il y avait déjà avant on se disait ce serait bien de jouer ensemble et tout.
Tu avais déjà joué avec ta sœur ou...
Je pense que c'était déjà arrivé,
pour rigoler, le bon
J'aime bien, tu regardes Antoine en mode, est-ce que c'est déjà arrivé?
Je ne me souviens pas tout.
Oui, c'est ça, j'essaie de me souvenir.
Leur père est bassiste aussi, il y a des jams des fois qui arrivaient à la cave et c'était sympa.
Ah, c'est stylé ça. Ouais. C'est plutôt pas mal, c'est vraiment familial pour le coup.
Très familial, surtout leur famille, Lucie Paul, ils sont très très rock, très branchés instruments et tout.
Ouais, donc je suis arrivé et puis ça a donné ce...
C'est vrai qu'au début, on avait une petite appréhension le fait de faire jouer le frère et sœur. D'ailleurs, au début, il y a eu des petites mises au point qui ont été faites pour faciliter la communication et vraiment être en groupe et pas en famille au final. Parce que quand on joue, on est en groupe et il y a vraiment un côté pro qui est différent. On est des musiciens, on n'est pas de la famille. Et en fait, ça s'est un peu imposé parce qu'après, vraiment, on s'est dit, mais Paul, en fait, il joue super bien et puis ça colle bien avec notre délire et tout. Puis voilà quoi. On a joué un petit peu avec lui quand on avait l'ancien projet. Et déjà, ça avait donné quelque chose de très positif. Donc on s'est dit, allez, on continue.
Et comment ça se passe pour toi, alors, Antoine, entre le frère et la sœur, t'arrives quand même à imposer tes petites idées ou tu arbitres peut-être les deux des fois?
Ouais, carrément. Non, alors je sais pas. Je trouve que depuis quelques années là, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé une certaine osmose tous ensemble où il n'y a pas tellement à s'imposer. Alors moi, je suis un petit peu, vulgarisons, un peu chef du groupe, dans le sens où je lis pas mal le projet.
Peu, ouais.
Voilà, c'est un peu moi qui anime les séances. Genre bon, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On essaie de faire ça.
Oui, donc ça, c'est un peu en sens. Naturellement.
Mais après, voilà, il faut toujours aussi quelqu'un pour un peu trancher.
Oui, forcément.
Mais voilà, après moi mon rôle je l'ai toujours trouvé parce que en étant chanteur, leader, guitariste, bah forcément j'amène les riffs, j'amène les textes, voilà. De plus en plus les autres en apportent aussi, hein. Lucie a écrit complètement un morceau, elle est chanteuse lead sur un morceau, mais voilà, j'avais beaucoup ce truc où dans d'anciens projets j'étais le seul à parler. Là, petit à petit, j'ai été moins en moins tout seul à parler. Et là, je trouve que voilà, au fur et à mesure des années, les idées se sont pas mal libérées. Et notamment sur l'album, les morceaux qu'on a enregistrés, il y a des idées qui viennent d'un peu tout le monde. C'est plus uniquement la proposition de suite d'accords et de riffs et de paroles. Quoi. Il y a des
tout le monde met la main à la pâte et tout le monde contribue.
On essaye. Quoi.
Ouais, au départ, c'était surtout aussi, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était le fait aussi d'être créatif dans un certain espace. C'est-à-dire que Antoine, c'est lui qui apporte les riffs, les mélodies et tout. Moi, j'aime bien, dans ce contexte-là, apporter ma touche dans une compo qui commence déjà à se solidifier. Quoi.
Et tu peux aussi amener les bières. Et donc, tu en parlais un petit peu, vous avez sorti votre premier single éponyme en 2020 avec deux morceaux. Et donc, vous commenciez à travailler sur un EP de 5 titres. Mais à ce moment-là, pandémie, Covid, etc., bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais vous avez revu votre objectif pour en faire finalement un album. C'est donc cet album Witcherious, album éponyme également, sorti le 16 février dernier. Ça a eu du bon, la pandémie, pour vous finalement?
Ouais, carrément. En fait, oui, on avait des morceaux qu'on voulait sortir, on voulait faire un EP histoire de sortir vraiment quelque chose. Et puis ça a été mis en pause, et puis on a commencé à travailler sur d'autres morceaux. Et puis on s'est dit, ok, quitte à faire un effort, autant en faire un gros et travailler direct sur un album. Alors il y a des morceaux qu'on avait, qu'on a un peu dégagés, il y en a qu'on a refondus.
Vous aviez le temps de faire tout ça, en fait, justement, de travailler, repeaufiner un petit peu. Et vous dites aujourd'hui que cet album, ça ressemble vraiment à la proposition artistique que vous rêviez de faire et qu'il est beaucoup plus abouti que l'EP que vous auriez sorti si jamais vous étiez resté sur votre premier EP.
C'était un mal pour un bien, en fait, vraiment. Ça nous a permis de bien plus développer nos morceaux, notre son... Ça c'était cool. Ouais.
Justement, on sent vraiment le fossé en termes de composition et en termes de production également entre le single en fait et l'album. Tu en parlais tout à l'heure, il y a des parties où il n'y a que de la basse et de la batterie. Enfin voilà, là vous avez un petit peu abandonné ça pour avoir quelque chose de plus lourd, de plus massif. Mmh. On sent que vous avez passé du temps justement à l'écrire, à le peaufiner, à rechercher, d'ajouter des choses au niveau des ambiances également. J'imagine que l'apport du producteur français Francis Cast y est pour quelque chose, hein, du studio Sainte-Marthe à Paris. C'est le producteur aussi de Svartkrain, Regarde les Hommes tombés, Clone, enfin voilà, il y en a plein, je pourrais en citer pendant des heures. Voilà, comment ça s'est passé pour vous, cette première enregistrement pro?
En fait, ce qui était assez cool, c'est que, comme tu disais, on a eu beaucoup de temps, donc même on avait fait quelques concerts où on avait quand même rodé un peu nos morceaux, donc on est arrivé avec des maquettes assez abouties. Je pense que ça nous a rendu service à nous et même à Francis, le producteur.
Oui, les morceaux étaient prêts.
Ouais.
Il restait plus qu'à faire les arrangements.
En fait, si on avait procédé comme les précédents singles, on aurait presque enregistré comme ça, on serait peut-être pas posé trop de questions. Et voilà. Mais en fait, lui, il a pu vraiment nous amener à un autre niveau d'ambiance, quoi. Il a vite compris le délire, ça qui était cool avec lui. C'était facile. C'est quelqu'un avec qui c'est très facile de parler. Il comprend ce que tu veux, en tout cas il fait tout pour comprendre, il te propose des choses, il fait très attention à parfois dans les conseils pas vexer les gens, mais en fait il est tellement cool que tu te vexes pas et au final il est dans le groupe pendant le projet d'enregistrement et c'est ça qui fait que ça avance bien. Et ouais, il avait plein d'idées sur quelques structures à améliorer, mais au final il n'y en a pas eu tant. Mais vraiment là on pourrait mettre un peu un bruit comme ça, on pourrait transitionner comme ça, là ce que vous voulez dire en fait ça fait ça, si on met cette texture de son ça va renforcer le côté potion qui déborde, des choses comme ça. Et ouais, ça c'était très agréable et on a pris le temps, on a passé quasiment 4 semaines en studio avec lui. lui il a fini après, tout ce qui est mix et master. Mais ouais, on a vraiment pris le temps d'essayer avec différentes textures de guitare, les micros de batterie, des voix. Il y a énormément de voix que j'ai enregistrées qui sont pas dessus parce qu'on a fait des essais, on en a gardé certaines et pas d'autres. Les chants scream, je les ai tous enregistrés en chant clair aussi, et l'inverse, pour voir un peu ce que ça donnait. Et pour le coup, c'était vraiment trop cool, c'était vraiment en immersion dans ce petit studio. En plus,
un peu le quatrième membre du groupe, quoi.
Il avait vraiment une vraie vision artistique, quoi. Donc c'est pour ça que vraiment dans l'album, tous ces petits sons qu'on entend, qui sont un petit peu horrifiques, voilà, que ce soit le Theremin.
Sound design.
Ouais, les petits arsènes de guitare, voilà, c'est vraiment des petits trucs qui sont faits au fur et à mesure. Et vraiment, cette ambiance un peu horreur, c'est un petit peu ce qu'on avait en tête aussi, je pense. C'est pour ça qu'on a poussé le délire un petit peu
plus. Vous vouliez que votre album sonne hanté, je vous
exactement.
Cite. Voilà, et donc je pense qu'effectivement vous y êtes arrivé. Est-ce qu'il y a un fil rouge sur cet album? Parce que je crois qu'il aborde la dualité de la nature humaine, c'est un peu un thème récurrent des morceaux. Voilà. C'est-à-dire, c'était quoi un petit peu votre vision? Est-ce que ça c'est, on va dire, est-ce que vous l'aviez déjà à la base, ce fil rouge, ou est-ce que c'est venu un petit peu par hasard?
Non, c'est venu au fur et à mesure des morceaux, et c'est venu aussi avec les textes qu'on a commencé à écrire pour ce projet et dont on parlait tout à l'heure. C'était d'écrire des choses plus avec le cœur, qui reflètent plus les problématiques qu'on a en tête, ce qui nous pose souci. Il y a à peu près la moitié de morceaux qui sont très personnels, qui parlent de dépression, de questions qu'on se pose sur la vie, c'est quoi notre place dans ce monde, etc. Et il y a aussi le côté vision, avec vision globale. On se pose, on observe et on voit que des gens qui se tirent dans les pattes, que des gens qui veulent profiter, de la terre, et la terre qui se ressource plus. Mais en même temps, on constate tout ça, mais on fait partie aussi de ce système et on y contribue. Donc bon, voilà.
C'est un peu effectivement ambivalent, un peu paradoxal. Eh bien, on va écouter un deuxième extrait de votre premier album, Witcherious, et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. On écoute tout de suite votre morceau Monster. C'est parti. We'll be right back. Monster de Witcharius. Je suis toujours avec Antoine et Paul du trio Witcharius. Alors, de quoi parle ce morceau? C'est quoi son histoire? Puisque c'est aussi le premier clip que vous avez sorti.
Ouais. Alors, Monster, c'est le premier clip, mais c'est aussi, je crois, le dernier morceau qu'on a écrit.
Ah, c'est le dernier, c'est le premier de l'album en plus.
En tout cas, dans les deux derniers. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on avait l'impression que l'album n'était pas fini. On avait l'impression qu'il manquait un morceau, et spécialement parce qu'on se disait, là on était un peu plus en mode stratégie de sortie de l'album, on se disait on va avoir un single à faire au moins, etc.
Et on se disait,
ouais, on les aimait bien tous, mais on se disait, ok, est-ce qu'il y en a un qui est assez efficace, qui représente tout? Et on n'était pas convaincus, et il se trouve que celui-là est venu, on l'a écrit assez vite, et donc ça s'est plutôt bien enchaîné, plutôt bien fait. De quoi il parle? Il parle en fait du fait que on est parfois persécuté dans certaines situations, notamment si tu regardes le clip, hein, c'est beaucoup à propos de la position de pouvoir, notamment au travail, quand tu subis un manager abusif, mais ça peut être aussi quand on est plus pauvre et qu'on subit des gens qui sont plus riches, voilà, ce genre de rapport de force qu'on a dans la société. Et c'est aussi comment toi tu te transformes en salopard envers les autres quand la position de force s'inverse. Et ça parle aussi également de quand t'es plein de rancœur, de choses que t'as accumulées. En fait, si tu gardes ça plutôt que d'aller en thérapie ou d'examiner ça petit à petit et traiter tes petits problèmes un peu chaque jour, tu gardes tout, t'explose, et là en fait tu deviens un monstre.
Voilà, tu deviens un monstre.
Tu deviens pire en gardant ta colère et en la redonnant.
Et vous dites que du coup, donc on a tous évidemment une part d'ombre, mais que l'être humain est pourri. Alors c'est un peu pessimiste ça.
C'est très
pessimiste. Est-ce qu'on est tous pourris du coup?
Très, très joyeux, Witcharius.
Ah, vous êtes un groupe de doom en même temps.
Ouais. Écoute, je veux croire que non. C'est moi qui écris les paroles, donc je vais défendre des trucs. Ouais, je sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Je vois bien qu'il y a énormément de gens qui sont très bons, qui sont merveilleux. Moi, j'arrive pas à me sentir quelqu'un de très bien, puisque ces paroles sont très personnelles. J'essaye au mieux chaque jour, mais je trouve que voilà, on est tous comme ça. Personne n'est parfait. On a tous une part d'ombre. Le tout, c'est peut-être de la maîtriser. Faut équilibrer. Mais ouais, au final, si je dois arbitrer, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde avec les sursauts d'ego et ce qui se passe au niveau écologique, je me dis, est-ce qu'il faut nous sauver en fait?
L'être humain est une bonne source d'inspiration pour les groupes de doom, parce que du coup on fait toujours pire et on descend toujours plus bas. En tout cas, quand j'ai vu les titres de votre album, j'avoue, je me suis dit un peu, voilà, bon, c'est un peu cliché, sorcière par-ci, monstre par-là, Blood, Sanctuaire, To The Grave, mais en fait pas tant que ça, puisque comme on peut le voir pour Monster où t'en as parlé, il y a un double sens. Watch Me Die également, qui parle de nous, les humains, qui détruisons notre planète. Catharsis, ça parle de la dépression, donc un thème un peu plus personnel, on va dire. Voilà, vous aimez jouer sur les clichés, comme vous dites, mais est-ce que vous n'avez pas peur que d'autres comme moi s'arrêtent juste sur le côté cliché et se disent bah, c'est déjà vu et n'aillent pas plus loin?
Déjà, par rapport au titre, je pense que c'est surtout qu'on voulait, je pense, des titres assez accrocheurs, assez simples. Voilà.
Un mot, deux mots, voilà. Trois mots, grand max.
C'est ça. Mais effectivement, après, quand on regarde le morceau, même les paroles et tout, voilà, y a toujours ce petit cette deuxième couche un petit peu derrière qui est cool, quoi.
Bah, les paroles sont très travaillées, les textes sont importants. Alors, tu le disais, dans certains morceaux, il y a une part de personnel dans vos paroles. Vous parlez de vos peines et de vos frustrations. C'est quoi vos frustrations, justement? Alors, t'en parlais par rapport à la planète qu'on détruit, mais voilà, c'est quoi un petit peu vos autres frustrations, les thèmes qui alimentent un petit peu tes paroles et celles de Lucie?
Alors, on parlait écologie, on parlait rapport de force entre les humains. Moi, c'est un truc vraiment qui me fascine un peu chaque jour, selon les contextes où on est, selon qui on rencontre. Donc voilà, ça se retrouve dans les paroles. Et il y a également vraiment la place. Le truc, c'est que voilà, dans le groupe, on a différentes tranches d'âge. Paul a 25 ans, Lucie a 30, moi j'ai 35. Donc on est un peu sur la même évolution à partir du moment où tu deviens un jeune adulte et vraiment un adulte. Et je pense que ça fait qu'on se pose toutes ces questions de... Qu'est-ce qu'on fout là, en fait? C'est quoi notre but, quoi? C'est quoi, déjà, moi, dans quoi je me projette moi-même? Et en fait, c'est quoi le sens? C'est quoi le but? Pourquoi je suis là? À quoi va servir ma vie? À moi-même? À la société? Est-ce que c'est bien de reproduire le schéma? Est-ce que c'est bien de reproduire d'autres humains? Donc c'est vraiment, ouais, moi, la place de l'être humain dans le monde, je sais pas si quelqu'un meurt en ayant la réponse à quoi ça a servi et est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien. Mais c'est vraiment un truc qui personnellement me hante un peu chaque jour.
Est-ce qu'il faut être torturé ou hanté pour faire du doom, du coup? Est-ce que c'est une condition
Je sais pas.
C'est surtout, je pense, une sorte d'exutoire. Voilà, c'est... Que ce soit toi pour les paroles ou même moi à la batterie, je pense que c'est une forme de frustration qu'on a un petit peu tous les jours, qu'on rejette, je pense, dans l'art, quoi. Donc voilà, ça nous permet de, je pense, dans nos vies d'être aussi plus équilibré, je pense.
Ah, c'est une thérapie, ouais, la ouais, musique. Hein,
donc, ça, voilà. Tout le monde a une petite part de frustration quand même. Je connais personne qui est complètement épanoui. Enfin, je le souhaite aux gens, en tout cas.
Oui, bien sûr.
J'imagine. Et il y a un personnage qui est très important pour vous, puisque vous l'utilisez carrément pour le nom du groupe. C'est l'image de la sorcière. Alors, c'est marrant, puisque j'ai interviewé un autre groupe, Eric Ross, pour qui la sorcière est l'incarnation du féminisme, un petit peu. Pour vous, c'est une figure à la fois rebelle et oppressée qui représente toutes les communautés qui pourraient être oppressées. Vous faites un peu une réappropriation moderne de la sorcière, c'est un peu ça, un petit peu.
En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a perçu au travers des œuvres qu'on a pu voir, hein, que ce soit dans les livres, dans les films, même dans les chansons de Doom. Mais ouais, c'est un perso qu'on aime bien. Quand tu regardes des traits films, des fois, c'est quelqu'un qui est vieux, qui est jeune, qui est laid, qui est très belle. Voilà, ça dépend vraiment. Donc ça peut être...
Parfois tout ça à la fois d'ailleurs.
Tout ça à la fois. Des fois dans un animal, un chat qui se transforme en sorcière, non mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est vraiment la personne dont on se méfie. Il y a un truc qui cloche, c'est menaçant, c'est dangereux. Et d'un autre côté, c'est fascinant parce qu'il y a un pouvoir et ça peut amener quelque chose, hein, d'obtenir un pouvoir. Donc ouais, et c'est très bien aussi pour toutes les métaphores de revanche. Moi j'aime beaucoup le décrire par rapport à toutes les minorités. Et minorités, ça peut être différents groupes d'individus, hein, c'est pas forcément ethnique d'ailleurs, selon les contextes encore une fois, voir comment ces personnes s'émancipent et prennent leur revanche, ce qui est le cas aussi de la sorcière quand elle jette un sort et que 200 ans après on en parle encore. Et oui, pour ce qui est du féminisme, je comprends tout à fait la position du groupe dont tu as parlé juste avant. Moi je pense qu'on veut pas le cantonner à ça, je pense qu'il y a de ça. Clairement, c'est un symbole. Après nous, voilà, même si c'est des idées qui nous intéressent, qu'on trouve très importantes à relayer, évidemment, en 2024, on ne se considère pas purement comme groupe féministe, il n'y a pas que ça.
Et non, bien sûr. C'est plutôt que chacun fait sa propre interprétation du symbole et son appropriation du symbole de la sorcière. Y a un truc que je trouve intéressant, c'est peut-être aussi que la sorcière, elle est immortelle. Voilà, on en parle depuis le Moyen Âge, en fait, et encore aujourd'hui, on parle de chasse aux sorcières aussi, contre le communisme à l'époque. Enfin, voilà, dans un registre un peu moderne. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Et vous dites également que vous vouliez des atmosphères occultes dans votre musique, des mélodies qui vous font penser à Satan. Alors l'image de Satan, elle peut aussi représenter plein de choses. Pour vous, c'est quoi ?
L'image de Satan.
Ouais. Pourquoi vous l'utilisez ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
Moi, je le vois vraiment comme un symbole de liberté, d'émancipation. Le truc, c'est que pour beaucoup de gens, Satan, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. C'est méchant.
Le
c'est
démon.
C'est le démon. Bon, il faut savoir que nous, on n'est pas très religieux. Et attention, on respecte totalement les gens qui sont religieux. Bon. Ceci étant dit, moi, j'ai du mal parfois à comprendre comment toute une humanité peut contempler à ce point un dieu, et ça mène parfois à des choses qui sont un peu horribles, hein. Les guerres de religion, ça date
un peu horrible.
Ça a donné beaucoup de choses, hein. C'est vraiment voilà quoi. Et pour le coup, c'est quand même drôle de beaucoup mépriser Satan, alors que Dieu cache pas mal de choses. Les églises, tout ça.
Et Satan est un ange d'ailleurs à la base.
Oui, donc, tout à fait. D'ailleurs, lui, c'est pareil, c'est un peu la sorcière qui prend sa revanche, hein. Déchue. Pourquoi ?
C'est vrai. La boucle est bouclée, effectivement.
Côté un peu repoussé, mais en même temps un peu petite forme d'intérêt, tu vois, de passion quand même, qui fait partie du personnage de la sorcière, mais aussi un petit peu de Satan et tout. Mm-hmm.
Ok, bon, en tout cas, bon, ça colle bien évidemment avec votre musique, enfin dans le doom metal et puis dans le metal en général. Alors, on reste un peu sur les paroles. Le morceau Blood qu'on a écouté en début d'émission, lui, il est plus fictionnel. C'est l'histoire d'un roi tyrannique et sanguinaire inspiré de Stannis Baratheon de la série Game of Thrones. Alors voilà, où est-ce que vous allez puiser vos inspirations dans les films d'horreur, la littérature, le fantastique? Voilà, est-ce que vous avez des œuvres en particulier qui vous ont marqué, peut-être communes ou pas du tout? Voilà, c'est quoi un petit peu vos...
Bah, il y a des choses, en fait, c'est dès que ça nous plaît et dès qu'on est dans cette ambiance dans laquelle on se sent bien, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a cette histoire de trucs d'horreur occultes, se réfugier dans le noir et tout, et laisser libre cours à son imagination, c'est le truc dans lequel on se sent rassuré pour faire ça. Donc ouais, clairement, Game of Thrones, il y a eu des personnages qui nous ont intéressés. Notamment...
Il y a une sorcière d'ailleurs.
Oui, Mélisandre, qui a un peu inspiré aussi The Witch, hein. Qui travaille du coup avec Stannis Baratheon, mais je trouvais ça très marrant en fait. Ça rejoint ce qu'on disait juste avant, ce type qui est complètement désespéré, qui veut être roi, il veut un empire, il veut tout ça, et les autres l'ont et pas lui quoi. Et du coup il va aller jusqu'à sacrifier des gens de la communauté, des enfants, parce que le divin va lui amener quelque chose. Et c'est marrant comment l'humain peut croire, bon c'est une fiction mais voilà, Comment l'humain peut croire à des choses complètement abusées alors qu'en fait, rationnellement, tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas le faire. L'équation, elle est pas bonne. Et ouais, donc il y a des séries. Je pense qu'on a été tous pas mal influencés par Walking Dead.
Surtout moi. Mais ouais, c'est vrai que à la maison même, mon père, moi, est très fan de films d'horreur globalement. Et, avec
peut-être les vieux films d'horreur, ouais, les vieux, années 70-80.
Ouais, ouais, vieux, ouais. Mais aussi plus récents. Et voilà, avec ma sœur, ça a toujours été. Enfin, et mon père, voilà, ça a toujours été un truc sur lequel on se rejoignait pas mal, quoi, effectivement.
Ça a nourri votre imagination, etc. Ouais.
Pas mal d'inspiration à ce niveau-là, ouais, c'est clair.
D'accord.
Ouais,
bah, ça...
Pareil, les trucs clichés abusés, tu vois, Evil Dead. Okay. Voilà, c'est peut-être.
On est plutôt du côté des zombies, du coup, ce genre de choses.
Ouais, c'est vrai que moi, c'est pas mal ça.
Ouais.
Très zombie, ouais. En tout cas, pour nous, pour cet album-là, beaucoup plus de possession que
ouais,
zombies.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mais ouais, en fait, je crois qu'on aime bien quand. C'est abusé, ça fait plaisir, il y a du sang, il y a du démon. Et puis aussi, c'est vraiment inspirant parce que je trouve que c'est un univers, l'horreur, où on voit des choses vraiment qui sont macabres, qui font très peur. Et on se dit, ah ouais, on est capable de ça, mais on va peut-être pas le faire.
Ouais. Et on est capable de l'imaginer pour le mettre dans un film. Eh bien, on va écouter un dernier extrait de votre premier album, Witcherious, et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview. Il y aura les questions flash également, et un focus sur un documentaire de la plateforme The Pit sur Why No, le chanteur-guitariste du groupe de Doom, The Obsessed. Il y aura également l'agenda concert Gérard Roux Productions et le programme du Hellfest Corner. On écoute tout de suite Eternal Night de Witcherious. C'était Eternal Night de We Chariots avec cette fois Lucie au chant. Vous écoutez le podcast La Fosse et nous sommes dans la troisième partie de l'interview de We Chariots. Alors même question que tout à l'heure, c'est quoi l'histoire de ce morceau, de quoi il parle, vu que j'imagine il est assez personnel pour Lucie.
Ouais, alors malheureusement Lucie t'en parlerait mieux que nous je pense avec ces mots, mais en tout cas moi je sais de quoi ça parle. En fait c'est... Si on doit le résumer très vite, c'est plutôt lié aux situations d'agression, agression sexuelle. Donc voilà, c'est vraiment l'image de la personne qui est victime avec cette espèce de corbeau qui vient se déployer au-dessus, qui prend possession, qui suce tout, même ton âme. Et voilà, le but est aussi, dans le morceau, évidemment, de se libérer de cet oppresseur.
Forcément, c'est ce qu'on disait, un peu cathartique, un peu une thérapie aussi, et donc ça peut aider un petit peu. Alors vous avez donc deux chanteurs, deux voix, même plus que deux voix, puisque tu chantes autant en voix clean, un peu à la Ozzy Osbourne parfois, que en voix de gorge. Est-ce que Lucie pourrait prendre un peu plus de place à la Mesa, par exemple, dans le chant? Est-ce que vous allez continuer cette dualité qui donne un peu des personnages?
Ouais. Ouais, carrément, ouais, c'est vraiment
c'est clairement,
qu'on a
mis, ouais, on voulait...
Vous battez pas.
Vas-y, Paul.
Non, bah ouais, c'est vrai que c'est un truc en concert qu'on nous demande souvent. C'est vrai que ouais, le côté duo de chant avec Lucie, voilà, qui prend peut-être un peu plus de place, voilà, au fur et à mesure, même des morceaux nous quand on a composé, c'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus proéminent en fait. Et, voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi explorer un petit peu plus. Et c'est vrai que cette dualité de voix, ça fonctionne assez bien, donc je pense que c'est un truc pour notre son qui pourrait être creusé encore plus à l'avenir. Ouais,
voilà, petit coup d'œil au guitariste en mode coucou, voilà, ça pourrait être creusé un petit peu. Et puis d'ailleurs, bah, ça fait des mélodies, enfin des harmonies vocales plutôt sympas, donc ouais. Voilà, il y a pas mal de choses à explorer. Sur cet album, We Chariots, est-ce qu'il y a des morceaux qui vous ont challengé musicalement? Est-ce qu'il y a des petits défis, notamment peut-être pour la batterie, je sais pas?
Des choses qui nous ont challengé. Toi, peut-être, t'as la guitare, il y a eu peut-être certaines choses, non?
Ouais, la guitare. Bah, après, il y a pas mal de morceaux qui, petit à petit, ont eu plusieurs vies. Donc, oui, bah, tu vois, juste avant, on parlait de l'harmonie des voix, et j'allais te dire, dans les derniers morceaux écrits, il y a eu To the Grave, où là, on est à l'unisson. Ouais. Et clairement, c'est un truc, on s'est dit, ah, trop cool, on va continuer dans cette voie. C'était pas du tout ça au début, To the Grave. C'était pas une balade en clean, c'était une chanson qui était plutôt rock, mid-tempo. Ouais. Et qui ressemblait, il était inspiré pas mal par Uncle Acid and the Deadbeats. C'était plutôt censé sonner comme ça, et en fait ça sonnait pas du tout.
Ouais.
Nous on n'y arrivait pas, quoi. C'était pas notre
truc. Même Francis, c'est vrai que quand on a amené le morceau, je crois que sur la démo t'avais l'acoustique. Et
ouais,
tout.
Mais alors là il avait déjà sa forme finale, même s'il était en guitare acoustique.
Mais même déjà, c'est vrai que le morceau a beaucoup évolué, parce que même après avec Francis, il nous avait dit, ouais, alors attention, ce morceau là, faut faire attention, faut pas que ça fasse sur l'album, faut pas que ça dénote trop. Pas que ça fasse trop la plage, le feu de camp.
Oui, c'est vrai que c'est, bah, voilà, il faut rajouter des sorcières sur le feu de camp, autour du feu de camp. Ouais.
Ça, c'était pour le son. Mais ouais, je pense que les difficultés qu'on a eues, c'est plus lié à la transition sur ces dernières années entre nos anciens projets, ce qu'on fait maintenant et l'écriture, de parfois mettre trop de solo, alors que tu vois, par exemple, moi, c'est pas mon style, je suis vraiment un guitariste de riff et de guitare mélodique, mais je suis pas technique. C'était parfois d'abréger certains passages, donc ouais.
Mais paradoxal pour du doom.
Ouais. Et puis moi, à la batterie, en vrai, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de travail, parce que c'est vrai que pour trouver, on va dire, une essence un petit peu tous les trois, vraiment un équilibre, c'est vrai que moi, au début, j'avais tendance un petit peu à.
Ça, c'est un challenge.
Ouais. À vraiment en mettre beaucoup sur les morceaux.
À taper trop fort, non?
Non, pas forcément taper trop fort, mais...
Mettre trop de batterie.
Ouais, voilà.
Ouais, d'accord, okay.
Paul, bon technicien de 19 ans, qui vient faire des solos de 1h30 en répète.
Exact, en fait, voilà, les morceaux, c'était des solos
ça
de
va,
batterie.
C'était bien calmé. On a pu faire des morceaux, en fait.
C'est un peu comme le solo de batterie de John Bonham, j'ai plus son nom, Moby Dick, je crois, sur le deuxième album de Led Zepp. Enfin, voilà, bref.
Ouais, donc voilà, ça, c'est vrai que c'était un challenge, et puis voilà, on a réussi à trouver une bonne osmose, donc voilà, c'est cool.
En tout cas, vous dites que vous recherchez un petit peu et vous inspirez de groupes de doom, mais avec des structures plus modernes, un son plus moderne, voilà, quelque chose qui n'a pas été déjà entendu. Apporter un peu du renouveau, c'était ça aussi un petit peu un challenge, c'est essayer de ne pas faire du doom qu'on a déjà entendu.
Ouais, alors c'est compliqué parce qu'on parle de rock, hein, on parle de musique actuelle et
très étiqueté aussi le doom.
Tout ce qui est une musique actuelle, en fait, n'en est pas vraiment. Hein, tout a été plus ou moins fait. Donc voilà, je sais pas si on peut avoir la prétention de dire qu'on fait quelque chose de nouveau. En tout cas, le but c'était déjà qu'on fasse un truc qui nous ressemble, au sens où nous, on sent que ça vient de nous, ça vient du cœur, ça nous ressemble et on se sent bien dedans, quoi. Et ça, pour le coup, on se sent bien dedans, donc c'est déjà ça. Voilà, on a parfois des retours comme quoi on reconnaît ce qu'on fait, c'est un peu original, donc ça, ça fait plaisir. Et puis on se dit qu'on a peut-être réussi à apporter notre identité.
Ouais, je pense que ça vient aussi beaucoup du fait de, qu'on est tous les trois un peu nos. On a des influences en commun, mais on a aussi un petit peu nos univers un petit peu chacun. Ce qui fait que ça, je pense que ça se ressent un petit peu dans la musique aussi. Donc ça, c'est, je pense que c'est important aussi pour pouvoir même sonner, on va dire, un petit peu original. Quoi.
C'est vrai qu'on a écouté beaucoup de heavy metal, de doom, tous ces trucs-là très classiques. Mais tu vois, Paul, il écoute beaucoup de prog. Lucie, elle écoute pas mal de hardcore. Moi, j'aime bien tout ce qui est metalcore, deathcore. Donc forcément, on voit des trucs et on se dit « ça serait pas mal d'en mettre un peu là ». Je dis pas qu'on l'a fait beaucoup sur cet album-là, mais... En tout cas, on a pas mal d'envie, pas mal d'idées de tester en restant dans le doom.
Ouais, même dans le futur, ouais, creuser un petit peu plus ces influences, je pense. Voilà,
ça pourrait être intéressant.
Ouais, ça fait un bon petit melting pot.
En tout cas, j'imagine que vous avez pas mal progressé entre la sortie de votre single et là, aujourd'hui, la sortie de cet album. Voilà, vous avez premier enregistrement pro, premier album. Vous avez bossé pendant 2 ans sur cet album, même un peu plus. Enfin, voilà, j'imagine que vous en ressortez déjà. Vous avez pas mal progressé, je pense.
Ouais, les maquettes de cet album n'avaient pas la même tête que les maquettes d'il y a longtemps. Énormément travaillé au clic. Donc là, forcément, ça... non, mais en vrai, ça nous a fait vachement progresser en groupe. Hein. C'est pas que tout seul, c'est vraiment en groupe. Puis on a fait pas mal de concerts et on en fait encore pas mal. Donc, ouais.
Le studio, vraiment, ça change. Hein.
Bah ouais, ouais, j'imagine.
C'est vrai que musicalement, même dans notre manière d'approcher même les compos et tout, en vrai, ouais. Pour même les prochaines qu'on va faire, je pense que indirectement, notre expérience studio, je pense. Ça va vraiment influencer les compos un petit peu.
Puis ça va vous aider. Puis ça va vous aider.
Je sais pas pour toi, Paul, mais je pense qu'on. Là, alors on l'a enregistré en décembre 2022. Il était prêt début 2023, cet album. Il est sorti début 2024. Donc il a déjà un an et quelques dans les pattes. Et là, je crois qu'on commence seulement à avoir un peu de recul dessus. Moi, pendant tout un moment, il était bien, il était là, voilà. Et je l'assume complètement, je l'adore, je trouve que c'est vraiment ce qu'on voulait faire, donc ça, c'est cool. Par contre, il y a des choses maintenant, quand on les joue, je me dis, si je devais l'écrire maintenant, je l'aborderais peut-être pas pareil, je ferais peut-être pas ce truc-là comme ça.
Comme
et
tous
tout.
Les artistes, en vrai.
Je pense que t'es jamais totalement satisfait. Ouais. Tu disais tout à l'heure, on ne peut pas être tout le temps satisfait de ce qu'on a fait, surtout quand on est artiste.
Parce que si t'arrives à un moment, en fait, où peut-être. La musique correspond à une certaine période, on va dire, dans laquelle tu composes. Et en fait, forcément, ça va évoluer, en fait, et forcément, tu auras un regard un peu différent sur ce que tu as déjà fait.
Puis quand tu l'as joué 100 fois, ta partie, tu te dis, mais là, j'aurais pu ajouter un truc ou enlever un truc, j'en sais rien, effectivement. Eh bien, on va parler des concerts. Tiens, vous allez avoir des mois chargés là qui arrivent. Vous jouerez samedi 27 avril au Grand Paris Sludge à Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne, à domicile, hein, pour vous. Ouais. C'est un festival qui rassemble du stoner, du doom, du sludge, du post-metal, bref, tout ce qu'on aime. Samedi 4 mai, vous jouerez aux 3 pièces. Music Club à Rouen avec Sycomore et Vain Valkyries. Vendredi 10 mai, vous serez au Graf Zeppelin Festival à L'Essai dans la Manche. Mardi 14 mai, à Paris, à Glazart pour un concert avec Bongzilla et Godsleep. Ça a été annoncé, vous avez remplacé la première partie qui a annulé pour je ne sais plus quelle raison. Vendredi 17 mai, au Club à Paris avec Mauvaise Foi et Nuage. Jeudi 23 mai, de retour chez vous aux Cuisines à Chelles en Seine-et-Marne pour faire la première partie de Mars Red Sky. Samedi 15 juin, vous jouerez en Suisse lors de la Fuzz Night au SAS ou SAS, je ne sais pas comment on prononce, à Delémont. SAS, ok. Et enfin, mardi 9 juillet, à La Bulle Café à Lille avec les Américains de Hippie Death Cult. Alors, c'est déjà pas mal, mais est-ce que d'autres dates vont arriver cette année ?
Il y en a une ou deux que tu n'as peut-être pas dites.
C'est possible.
Le 12 mai, il y a le Metal Hunting Open Air, qui est un festival dans l'Est.
Ok, ah bah oui, effectivement, j'ai raté ça là.
On est assez content d'y être et ça va être très death. Et oui, il y a des dates sur lesquelles on travaille. On va aller en septembre à Troyes, qui est ma ville natale. Très content d'y faire. On va retourner à Amiens. On essaye d'aller un peu plus vers le sud aussi. Donc on est en train de travailler sur le booking de tout ça.
Il y a pas mal de dates qui vont arriver vers la fin de l'année aussi.
Suivez les réseaux. Il y a une vingtaine de dates là qui est prévue et puis il y en a d'autres qui vont se rajouter.
En tout cas, 2024, année de la tournée pour vous pour défendre cet album.
C'est maintenant.
C'est maintenant, effectivement. C'est votre objectif principal, je vais y arriver. Et donc, c'est quoi la suite ? Puisque tu le disais, l'album date de 2022, en fait. Vous avez peut-être déjà commencé à travailler sur la suite.
On a commencé à travailler quelques riffs, on a déjà fait un peu tourner en répète. On a des idées, moi j'ai des cahiers qui commencent à se remplir de...
Il y a des solos de batterie de Paul aussi.
Voilà. Il y a un morceau, ce sera ça.
Pourquoi pas, ça
sera... Interlude de solo de batterie.
Il y a bien un petit interlude basse, guitare, etc. Pourquoi pas.
Parfait.
pourquoi pas batterie. Et ben c'est presque la fin de cette interview. Avant de se quitter, on va passer aux questions flash, une petite série de questions réponses rapides, et vous pourrez retrouver cette série de questions en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, TikTok, Instagram, Facebook, le blog de The Pit Edition, mais vous pourrez retrouver ça en vidéo dans quelques semaines. Voilà, les questions flash tout de suite. Qu'est-ce que vous chantez sous la douche ?
Alors moi, sous la douche, souvent, j'aime beaucoup remettre tout ce que j'ai connu au collège, lycée, donc beaucoup d'années 2000. Il y a du Linkin Park, il y a du Papa Roach, des trucs comme ça, du Korn.
Bah, moi, c'est souvent ce que j'écoute, on va dire, sur le moment. Ça reste en tête beaucoup, donc voilà.
Quel est votre meilleur souvenir de concert ? Ça peut être un concert que vous avez vu ou un concert que vous avez fait.
Ok, meilleur souvenir de concert. Le Fall of Summer Festival qui malheureusement n'existe plus. Un groupe de thrash allemand qui s'appelle Tankard. Énorme, déjà super cool, tenue de scène incroyable, les gars ils ont grave du métier. Le chanteur qui est un gros bonhomme, voilà, le thème du groupe c'est la bière et je pense que c'est pas pour rien. Il se ramène devant la scène, il dit en gros en anglais « Ouais, est-ce que ça va ?» et tout. Le gars soulève son t-shirt et il met des énormes coups de micro sur son bide en mode « Poum, poum, poum ». Le mec sait tenir une scène, incroyable.
Ouais, alors bon, c'est pas aussi incroyable que lui, mais juste, moi je vais être un peu plus sérieux. Bon bah là, je sais pas, il y a un concert qui me vient aux têtes, c'est le groupe Carnivool que j'ai vu en concert, qui passe pas souvent en France, quoi, et ça a été un super concert, bien rythmé, bonne énergie, et même une bonne osmose avec le public, quoi, et ça m'est resté, c'était il y a pas si longtemps, donc.
A l'inverse, quel est votre pire souvenir de concert ?
Bah, peut-être des concerts ouais, avec des sons pourris, quoi. Genre vraiment où le son est tellement naze que le concert est pas ouf, quoi. Après, j'avoue que j'ai pas de souvenir en particulier.
Moi, mon pire souvenir de concert, c'était avec un ancien groupe dans lequel j'ai été. Le groupe en lui-même, c'était très cool. Bon, on faisait des reprises et des compos rock, c'était sympa. Mais en fait, à un moment donné, on avait joué, je crois que c'était au Gambetta Club, ou en Gambetta. Et c'était une soirée emergenza. Donc déjà, c'est un truc où on a fait payer nos potes, etc. Donc souvenir un peu mitigé du truc, même si à l'époque, on était tout neuf, on savait pas, et c'était cool. Mais en fait, à un moment donné, on allait commencer un morceau, on savait pas du tout animer une scène. Pour le coup, c'était un des premiers concerts qu'on faisait. On regardait les gens qui étaient surtout des potes d'autres groupes, on n'avait pas trop présents, donc c'était un peu compliqué. Et là, le guitariste, il m'arrête, j'allais prendre le micro et dire quelque chose, il m'arrête et il me fait « Hey !» J'ai fait « Quoi ?» En plein concert. Il me fait « Demande-leur s'ils veulent du rock !» Et je fais « Vous voulez du rock ?» Et ça a pas marché du tout. Et voilà. Et du coup, c'est une super anecdote parce qu'en fait, c'est une blague qu'on se fait encore entre nous parce que ça m'est vraiment resté et je le remercie encore d'avoir fait ça parce que c'est un beau souvenir. Mais c'était quand même, sur le moment, une de la pire anecdote de concert.
Avec quel groupe vous aimeriez tourner ?
Moi, j'aimerais tellement qu'on tourne avec Messa ou Lucifer.
Bon, moi, je vois les choses en grand, mais Mastodon.
Vous êtes plutôt Black Sabbath ou Electric Wizard ?
Black Sabbath.
Black Sabbath.
Vous êtes plutôt côté sombre ou côté lumineux ?
Sombre, total.
Sombre.
Malheureusement, et c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a une reprise que vous aimeriez jouer ?
Pour ma part, je suis pas très fan des reprises.
Alors moi, je suis pas sûr qu'on la fera, mais il y a une reprise à laquelle je pense souvent. C'est Pose Ton Gun de NTM en version Doom Metal. A voir si on l'a fait un jour. Chelou.
Vous l'aurez entendu ici en premier. Quel super pouvoir aimeriez-vous avoir ?
Être invisible.
Pouvoir voler.
Un mot pour décrire Witcharius.
Dark.
Witch.
À quoi êtes-vous accro ?
Moi, franchement, j'ai du mal à me passer de saucisson.
Je m'attendais pas à ça, quoi.
Ah, le saucisson, c'est dur d'arrêter. Hein. Franchement, le saucisson sec, là. Désolé hein, pour les végétariens. Hein, mais
Il y a deux végétariens dans le groupe. C'est pas Paul.
Et c'est pas moi.
Moi, accro à la musique, hein, vraiment. Il y en a tout le temps à la maison. Pas que du métal, loin de là. Tout le temps dans ma tête. Je suis tout le temps en train de siffler, chanter un truc. C'est un peu chiant des fois pour les gens qui vivent avec moi, mais désolé, c'est comme ça. Voilà.
Est-ce qu'il y a un documentaire rock ou métal qui vous a particulièrement marqué ou touché ou...
Ouais, moi c'était Lemmy, le documentaire sur Lemmy Kilmister, parce que c'est quand même une des, si c'est pas la plus grosse légende du rock metal, en tout cas à mon sens. C'était marrant en fait de voir à quel point ce type est énorme, a fait un truc énorme. C'est pas forcément les plus gros groupes genre U2, etc. Mais c'est quand même Motorhead, et dans le rock metal, je pense que c'est quand même la plus grosse légende. Et de voir ce type qui en fait vit juste comme il en a envie, un peu dans ses pensées. Qui n'y a pas le permis mais qui va faire du tank, qui aime bien passer, claquer toutes ses thunes juste à être au même comptoir du même bar toute sa vie avec ses potes, voilà, un type simple qui vit son délire, qui avait pas l'air de se prendre la tête, et voilà, beaucoup de scènes et d'anecdotes assez sympas dans ce documentaire.
Ouais, si moi j'ai le souvenir d'un documentaire sur Ozzy, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est quand même un sacré personnage, de par voilà Black Sabbath, sa carrière solo, et puis l'émission de télé-réalité,
les Osbournes.
Ouais. Voilà, c'est quand même un délire, et voilà, ça c'est vrai que ça m'a un peu marqué.
Quel est votre morceau préféré de votre album Witcharius?
Watch Me Die.
Sanctuaire.
Et enfin, pourquoi faut-il écouter ce premier album de Witcharius?
Bah parce qu'il est bien. Voilà, tout simplement. Enfin, j'espère en tout cas. On a fait notre possible.
Écoutez-le parce que on l'a fait avec nos tripes, avec notre cœur. On aimerait vraiment que vous l'écoutiez. On aimerait vraiment vous rencontrer en concert. Donc voilà, écoutez-le. Et puis parce que juste c'est du rock, c'est cool. Je crois qu'on peut dire qu'on est encore jeune, en tout cas la moitié du groupe. Et voilà, pour ceux qui se disent que y a pas trop de rock metal en France, c'est pas trop notre truc. Comme certains diront, mais si en fait il y a une bonne scène metal en France, faites-vous votre avis. Écoutez Witcharius, écoutez aussi les groupes de copains.
Et il n'y a pas une scène de métal en France, il y en a plein, et ça peut le voir dans mon émission, où je reçois des groupes de styles totalement variés, et ils sont tous français, enfin en tout cas quasiment tous. Merci beaucoup à vous Witcharius, je rappelle donc que votre premier album éponyme est sorti le 16 février dernier, et vous avez pas mal de concerts à venir cette année. Merci à vous, à bientôt.
Merci beaucoup,
merci,
Raphaël,
cool.
Merci The Pit.
Tiens d'ailleurs, est-ce que vous connaissiez Wino, le chanteur-guitariste de The Obsessed?
Ouais, bien sûr.
Eh bien la plateforme The Pit a sorti il y a quelques semaines le documentaire Wino The Documentary sur le guitariste-chanteur légendaire du Stoner Doom qui a joué dans The Obsessed, Saint Vitus et dans plein d'autres groupes comme Spirit Caravan, Place of Skulls, The Hidden Hand, Shrine Builder, etc., etc. Si bien que certains le surnomment le parrain du Doom, ce documentaire vous plonge dans sa vie en marge de la société, sa carrière et son influence à travers ses multiples groupes donc, et dresse un portrait brut et parfois drôle de l'homme et de sa musique. Un homme généreux, très proche de ses fans, mais aussi accro à la drogue et complotiste. L'histoire est racontée à travers ses mots, des images de road trip et de tournées, ainsi que dans de nombreuses interviews de musiciens qui ont travaillé avec Wino, Bobby Liebling de Pentagram, Dixie Dave de Weed Eater, Jimmy Bauer, Diet God et de Down, Dave Grohl, Phil Anselmo, Pepper Keenan de Corrosion of Conformity et Down, Henry Rollins de Black Flag et bien d'autres. Wino The Documentary est un documentaire original et un essentiel pour tout fan de hard rock et de heavy metal. C'est à voir sur The Pit. L'abonnement c'est 6€ par mois, 66,6€ par an. C'est sans engagement, il y a 7 jours d'essai offerts et rendez-vous sur the-pit.com pour voir ce documentaire. On passe désormais à l'agenda concert Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner.
Besoin d'un coup de main pour choisir un concert? Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
Le groupe de métal progressif américain Dream Theater revient en France en novembre avec 2 concerts pour fêter leurs 40 ans. Et si vous avez raté l'info, le batteur Mike Portnoy est de retour dans le groupe. Ce sera sa première tournée avec Dream Theater depuis plus de 14 ans. Ils joueront donc le 14 novembre à la Halle Tony Garnier de Lyon et le 23 novembre à l'Adidas Arena à Paris. C'est une nouvelle enceinte créée pour les Jeux Olympiques à Porte de la Chapelle dans le 18e arrondissement. Les préventes ont ouvert hier jeudi 11 avril et la billetterie a ouvert ce matin, vendredi 12 avril, sur gdp.fr. Le line-up complet du festival Heavy Weekend a été annoncé. Ce sont les 21, 22 et 23 juin à Nancy. En plus de Scorpions, Extreme, Deep Purple, Judas Priest et Alice Cooper, on retrouvera Pretty Maids, Tom Morello, Aaron Jones, Sortilège et The Last International pour une belle affiche rock, hard rock et heavy metal. Et puisqu'on parle d'Alice Cooper, le groupe jouera au Zénith de Paris le 2 octobre prochain avec Doro en première partie, la heavy metal queen allemande. La vente est déjà ouverte sur gdp.fr. Un mot sur le Hellfest Corner maintenant, qui a lancé sa nouvelle carte la semaine dernière. Je le rappelle, c'est une nouvelle formule avec des nouveaux tarifs en baisse et un happy hour plus long jusqu'à 20h au lieu de 19h. Ce soir, vendredi 12 avril, c'est la soirée de lancement de la marque de vêtements Je t'aime pas au Hellfest Corner. Samedi 20 avril, c'est la soirée Wall of Shame. Vous pouvez demander n'importe quel morceau. Les barman le passeront sans broncher, mais ils pourront vous afficher au micro. Dimanche 21 avril, c'est le brunch de Jean. Il y a deux services à midi et 15h sur réservation auprès du bar. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Fosse. Vous retrouvez les podcasts sur les plateformes habituelles Spotify, YouTube, Deezer, Samsung, Apple, Google, the-pit.com, etc. Le nom c'est La Fosse, le podcast de métal et rock. Et donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortent chaque vendredi avec une interview de groupe par semaine. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, vendredi 19 avril. Et nous allons parler de légende avec Orkiss. C'est un groupe de power metal, metal symphonique, mais avec des éléments heavy, thrash, death et même black. Et ils sortent leur deuxième album, Legends, vendredi 26 avril. C'était Raphaël Udry, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et thepit.com.